Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker, donc d'analyse de films de séries qui touchent à la guerre, aux armées d'une manière plus générale, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau François Narol. Alors vous n'étiez pas venu pour un bunker, vous étiez venu pour un récit dans le viseur. Donc François Narol, que les adeptes du Twitter Défense connaissent bien, ancien officier de marine, notamment spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, donc bonjour.
Bonjour.
Et c'est, on va comprendre pourquoi je le précise, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un film assez récent, qui date de 2020, intitulé Greyhound, la bataille de l'Atlantique, en français, un film avec Tom Hanks, sorti donc l'an dernier en 2020. Film qui était évidemment censé sortir au cinéma, et puis il y a un petit truc qui s'est passé l'an dernier qui a un peu gêné la sortie de ce film au cinéma. Mais du coup, justement, je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre un peu en avant, parce que c'est un film qui vaut le coup, je crois, parce qu'il montre, donc, alors je vais le résumer à très grands traits, mais c'est le récit d'un destroyer américain en pleine Seconde Guerre mondiale qui accompagne un convoi à travers l'Atlantique, puisqu'on se rappellera peut-être que l'Angleterre était sous perfusion américaine pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour tout un tas d'approvisionnements. Et donc ça passait par des grands convois qui étaient escortés par un certain nombre de bâtiments militaires, et dont ce Greyhound qui accompagnait un convoi donc en 1942 à travers l'Atlantique et où il devait donc faire face aux assauts notamment de U-Boat, donc les sous-marins allemands, qui se mettent à attaquer ce convoi. Alors je l'ai dit, c'est un film qui m'a paru... Alors j'ai cité que Tom Hanks au palmarès, je peux préciser que c'est un film d'Aaron Schneider, mais bon, soyons honnêtes, c'est essentiellement un rôle taillé pour Tom Hanks, autour de Tom Hanks, en capitaine de navire. Et puis, que je trouve intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle assez rarement, c'est-à-dire on parle souvent, il y a des films de sous-marins, et on a déjà parlé de pourquoi les films de sous-marins étaient souvent assez bons, c'est-à-dire parce qu'il y a plein d'effets dramatiques dans les films de sous-marins qui marchent très bien, la claustration, l'enjeu maximal, le fait qu'un sous-marin risque de sombrer corps et biens avec tout son équipage, donc les films de sous-marins sont souvent assez palpitants, mais on a plus rarement le pendant, disons, de l'autre versant, qui est le versant de la lutte anti-sous-marine, donc de ceux qui sont pris en chasse par les sous-marins et qui essayent de les contrer et de les éliminer avant de se faire éliminer, à savoir donc les navires de surface. Alors, François Darron, vous qui avez donc une expérience de la lutte anti-sous-marine, c'est-à-dire de ce que c'est que traquer un sous-marin, et en même temps aussi de la position que c'est potentiellement de vulnérabilité d'être en surface par rapport à un sous-marin furtif et qui peut frapper de manière assez insaisissable, dites-nous que... Déjà, parce que je vais dire que je vous ai un peu forcé à revoir ce film. Parfois, souvent, je laisse l'invité choisir le film, et puis parfois, il y a un film dont j'ai envie de parler. Et donc, je choisis un invité qui est spécialisé dans le thème général, disons. Alors, ce film que je vous ai donc forcé à voir ou à revoir, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en avez retenu de ce USS Greyhound et de ce Tom Hanks en chasseur de sous-marins?
Alors, c'était pas un gros effort, hein, parce que je l'avais déjà vu et je l'avais, moi aussi, je dois dire, plutôt apprécié. Et alors, déjà, dès la présentation, il y a quelque chose à dire, c'est que la traduction française du titre n'est pas hyper favorable, puisque c'est bien USS Greyhound. Sauf que dès le départ, dans le film, on apprend que c'est pas du tout le nom du bateau. Le bateau s'appelle pas Greyhound, c'est son indicatif, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à nos amis canadiens qui ont traduit Greyhound et pas USS Greyhound. Voilà, c'est pour la petite remarque de forme sur la traduction française. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est un film qui choisit. Il y a un choix très clair et on voit d'ailleurs que l'acteur principal, producteur, a participé à l'écriture du scénario, ce que vous disiez, c'est-à-dire que le film est taillé pour lui, on ne voit à peu près que lui, mais c'est un choix. Dans ce film, il est commandant du bateau, c'est sa première fois, il le dit, son premier commandement est la première fois qu'il va commander ce bateau et l'ensemble du groupe de bâtiments qui va escorter ce convoi pour sa traversée. Alors que les États-Unis le font déjà, alors même s'il y a peu d'éléments de contexte, on sait que les États-Unis le font déjà depuis un peu de temps, avant leur entrée en guerre déjà. Et voilà, on est plongé dans la passerelle de commandement du bateau pour toute la durée de ce convoi, et particulièrement une partie de cette durée, qui est la fameuse absence d'escorte aérienne, on reviendra dessus je pense.
Bah alors, disons-le, non, parce que c'est le cœur du film, c'est-à-dire c'est le fait que l'Atlantique c'est grand et que le meilleur moyen pour se protéger des sous-marins c'est quand même d'avoir des avions, parce que les avions peuvent les repérer de loin, peuvent aussi les éliminer beaucoup plus facilement, et que quand on traverse l'Atlantique avec un convoi, les avions n'ayant pas une portée illimitée pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment, au plein milieu de l'Atlantique, où il y a ce qu'on appelle le trou noir, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de couverture aérienne, ni du côté américain, ni du côté anglais, et où donc il y a juste des bateaux sur l'eau qui doivent affronter, disons, le danger omniprésent des U-boats allemands qui risquent d'attaquer un convoi. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est vraiment, alors on en reparlera peut-être de la métaphore animale, mais c'est vraiment une meute de loups qui est à l'assaut d'un troupeau de moutons, on a l'impression, à savoir ces navires donc de convoi, qui sont des navires qui transportent des marchandises ou éventuellement des gens, mais qui sont pas des navires militaires essentiellement, et autour, quelques chiens de berger, en quelque sorte, qui sont là pour garder ces navires et pour faire face aux assauts des loups, mais avec toute la limite que ça implique.
On a déjà tout, en fait. Pendant cette phase-là de la Seconde Guerre mondiale, on a déjà des radars, on a déjà des sonars, on a déjà des systèmes avec des collaborations entre des avions et des bateaux de surface. Donc on a déjà tout. Finalement, on a peu de choses qui sont des ruptures nouvelles aujourd'hui, si ce n'est que ça fonctionne bien sûr mieux, de façon plus développée, avec plus de numérique, avec plus de distance, etc. Mais on a déjà tout. On a cette spécialisation d'escorteurs qui va arriver contre les sous-marins, et puis ces avions. Et effectivement, ça n'a pas changé. La meilleure façon de se prémunir d'une menace anti-sous-marine, c'est de la voir par le dessus. Et c'était d'autant plus vrai que les sous-marins de l'époque étaient des submersibles en train de devenir sous-marins, c'est-à-dire qu'ils restaient l'immense majorité du temps en surface. Leur navigation, leur transit était souvent en surface, et puis ils plongeaient pour attaquer. Et on les voit d'ailleurs très très souvent dans ce film, plonger puis remonter.
Donc à chaque fois qu'ils remontent, c'est autant de fois où ils sont visibles encore plus par radar, et puis voire même à l'œil nu, c'est-à-dire c'est une espèce de traque, on essaye de voir où il va faire surface, quand il y en a un qui va trahir sa position, parce que sinon, la plupart du temps, on est quand même très 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 aveugle face à ces prédateurs qui rôdent et vraiment qui peuvent frapper de manière très très difficile à contrer, disons.
Alors, ils restent, quand ils plongent, pas forcément très profondément, assez visibles de l'œil de l'avion, mais effectivement, il y a une zone, et vous l'aviez dit, au milieu de l'Atlantique, l'Atlantique est très grand, il y a une zone où on ne peut pas avoir d'avion, et d'ailleurs, je pense qu'on pourra en reparler, la création des porte-avions, notamment des porte-avions d'escorte, va venir combler cette lacune. Mais en attendant, on n'en a pas à ce moment-là du film, et donc on voit effectivement que les bateaux de surface sont obligés de se débrouiller tout seuls pour les trouver, mais surtout essayer de les éviter. Sauf que c'est difficile, et c'est une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce film, c'est que on n'est pas sur un héroïsme triomphant où le bateau va réussir tout et fin du générique de fin. Au contraire, sans spoiler, on peut dire qu'il y arrive pas toujours, et que ça montre bien ce qu'était la réalité de ces convois qui, pendant plusieurs années, ont traversé l'Atlantique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui finissent quand même au fond. Beaucoup de navires civils, et quelques navires militaires. Et si les navires militaires sont moins nombreux à rejoindre le fond, c'est pas parce qu'ils se défendent mieux ou quoi, c'est parce que la cible principale des sous-marins rejoignant d'ailleurs par là l'ensemble de la guerre navale depuis des siècles, c'est les bateaux de commerce. Le but sur l'eau n'a jamais été de s'affronter entre armadas, hormis quelques moments historiques très précis. Le but est toujours de faire un blocus, d'empêcher un ravitaillement d'une terre à une autre terre. Et là, on le voit très bien, parce que les bateaux tombent, puis tombent, puis tombent. Et on imagine, un instant quand même, en regardant son film tranquillement dans son canapé, ce qui pouvait être l'ambiance de ces marins, civils et militaires donc, démunis. C'est-à-dire que ça se passe bien, et puis en quelques secondes, leur vie bascule. Ils se retrouvent au mieux sans leur bateau et dans l'eau, peut-être blessés, et très souvent morts. Et il y a ce côté fatal du combat entre sous-marins et bâtiments de surface, qui est, et on le voit au tout début du film, blanc ou noir. C'est-à-dire que vous êtes vivant, et tant que vous êtes vivant sur un bateau, vous pouvez vivre tout à fait confortablement, alors confortablement pour l'époque en tout cas, et dans quelques secondes, vous êtes mort, tout le monde. Une torpille ne fait pas de demi-morts, elle fait des morts d'un coup, tout le monde. Elle coule des bateaux.
Et par ailleurs, même quand un bateau ne coule pas à pic, quand un bateau n'explose pas entièrement, alors bon, il y a par ailleurs des bateaux particuliers, on peut parler une seconde, il y avait ces cas particuliers qui étaient les pétroliers, qui étaient des navires particulièrement effrayants pour faire le commerce, parce que quand un pétrolier saute, il saute vraiment, il n'y a pas beaucoup de survivants. Mais même quand un navire prend une torpille, ou prend à moitié une torpille, qu'il est endommagé, qu'il sombre pas corps et bien, mais qu'il coule lentement, on peut dire que bah voilà, quand on est au milieu de l'Atlantique, c'est quand même pas, on va pas nager jusqu'à la rive, quoi. Donc c'est, il y a aussi le drame presque métaphysique qu'est la haute mer, c'est-à-dire le fait que ben voilà, il y a rien.
C'est ça, et c'est pour ça que c'est finalement proche de certains films qui aujourd'hui, moi je suis assez adepte de la théorie selon laquelle les films de marins aujourd'hui sont des films spatiaux, parce que quand on est hors de son vaisseau, on est mort. Et en fait ça fonctionne à peu près pareil. Le bateau fonctionne en convoi, en groupe, et c'est pour se protéger mutuellement, pour se récupérer aussi, pour sauver, et on le voit plusieurs fois dans le film, les différents blessés ou en tout cas naufragés qui fonctionnent en groupe. Mais sans ça, effectivement, au milieu de l'Atlantique, il n'y a rien. La terre la plus proche, elle est dessous à 4 km minimum, et entre l'Angleterre et les États-Unis, bah, y a toute une distance pendant laquelle il n'y a rien. Et en plus, on voit, hein, le temps est très mauvais, il fait froid, on voit l'eau salée qui gèle sur les vitres de la passerelle, donc c'est pas particulièrement un endroit confortable du tout.
Ouais, on peut... Enfin, vous l'avez dit à l'instant, mais c'est le sentiment de vulnérabilité que je trouve très marquant là-dedans, et aussi parce que ça explique... Ça explique le revers de la chose, c'est-à-dire ce truc complètement incroyable que des types acceptent de se mettre dans une boîte de conserve et aller sous l'eau, en sachant que la boîte de conserve se coule quand même assez facilement, parce que dans un sous-marin, on peut rappeler qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent mal se passer, et que pour le coup, quand un sous-marin coule, il y a vraiment rarement des survivants.
C'est binaire aussi.
C'est probablement encore plus binaire que pour un vaisseau de surface. Ça explique pourquoi est-ce qu'on fait ce truc-là, parce qu'un sous-marin, c'est quand même une arme incroyable face à un navire de surface, c'est-à-dire bah, ça subit assez peu le mauvais temps, puisque ça peut passer sous l'eau, et donc les choses sont quand même beaucoup plus tranquilles quand on est sous l'eau, ça peut aller assez vite, ça peut être très furtif, et si ça se fait pas repérer, c'est quand même une arme assez fatale pour un navire de surface, parce que voilà, une torpille, ça marche très bien, et ça coule très efficacement un navire d'assez loin même.
Bien sûr, et tout à l'heure je disais qu'on avait déjà tout à l'époque, mais en fait, ce que vous dites est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un sous-marin, a fortiori quand ils sont capables de plonger durablement grâce à la propulsion nucléaire et profondément, c'est vraiment invisible. C'est vraiment invisible et introuvable quand on ne sait pas exactement où chercher. On ne fouille pas un océan avec un grand peigne pour voir s'il y a des sous-marins dedans. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à trouver un satellite en orbite, même si on ne nous le déclare pas, qu'un sous-marin dans l'océan. C'est vraiment invisible, cette menace qui vient de nulle part, qui peut peser en permanence, qui est finalement une vraie dissuasion. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, à une ère où on reparle beaucoup de retour à une haute intensité, là on en a une. On en a une, c'est... Il y a une dissuasion très forte, parce qu'on sait qu'en gros, si on fait un convoi au milieu de l'Atlantique, on va avoir des bateaux coulés, mais en fait on y va quand même parce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on ne maîtrise plus le territoire, le milieu, le domaine dans lequel on va, mais qu'il faut y aller quand même. Et je trouve que ça, c'est très bien, c'est très visible en fait dans ce film.
Et puis surtout, ce qui est étonnant et que ça, ça permet de mesurer, c'est que c'est un risque qui n'est pas calculable. C'est-à-dire, ça peut aussi très bien se passer, hein, qu'on voit, enfin je veux dire, des U-boats, il y en a beaucoup. Enfin bon, l'Atlantique, c'est vraiment très très grand. Et il y a aussi moyen qu'un convoi passe complètement à travers, parce que les U-boats sont ailleurs, trouvent pas le convoi, etc., etc. Enfin, c'était loin de... Tous les convois n'étaient pas attaqués, sinon l'Angleterre serait morte de faim longtemps avant. Donc c'est pas un risque calculable, calculé, c'est un risque quasiment métaphysique. Et le jour où y a une bande de U-boats qui trouve le convoi, là il y a un vrai problème. Ça se concrétise instantanément. Alors qu'il y a plein de réalités parallèles dans lesquelles on ne croise jamais un sous-marin parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'un sous-marin tombe sur tous les convois. Quoi.
Alors, il y a d'ailleurs le choix, tout à l'heure je disais que le film c'était un vrai choix très assumé, très, très marqué. Le choix est fait et finalement un peu surprenant pour un film américain de ne pas du tout montrer ce contre-plan, ce contre-champ. On ne voit que le point de vue des bateaux et les sous-marins, on ne les voit quasiment jamais. On les aperçoit. Mais on n'a jamais montré dans le film une seconde la position vue d'un commandant de sous-marin, vue de l'intérieur d'un PC opération du sous-marin. Mais on voit quand même un instant, en une réplique, le surfacier qui est le commandant du bateau de surface. Quel rôle de Tom Hanks, reprendre l'un de ses marins qui est content d'avoir coulé le premier, dire voilà, il y a quand même 50 morts en face. On voit que ça s'estompe au bout d'un moment dans le film quand la bataille en tout cas fait rage. Mais voilà, cette assez rapide déshumanisation ou absence d'humanité en tout cas montrée en face amplifie ce côté un peu aléatoire de peut-être je vais mourir, peut-être je vais survivre, non pas à la journée, mais à l'heure qui vient. Et quand on rajoute à ça le fait que, comme je disais tout à l'heure, la météo est mauvaise, ça bouge, c'est le bateau qui n'était pas confortable du tout, on est en pleine nuit souvent, puisque c'est quand même plus facile pour l'avantage est au sous-marin quand il attaque la nuit, parce qu'il se fait moins voir. Tout ça devait être éminemment stressant, long, et on parle de plus de 50 heures, et globalement on voit qu'il les passe réveillés en permanence. Hein. Y a même d'ailleurs toute une sorte de gag, si je peux utiliser ce mot-là, sur le fait que dès que le commandant veut manger quelque chose, il se fait attaquer. Donc la conclusion qu'il en tire assez vite, c'est qu'il va pas manger, il va pas dormir. Et voilà, ça rajoute, et ça je trouve c'est assez bien montré, ce côté pas psychologique, mais voilà, cette tension et cette fatigue qui va s'installer, que nous on voit quasiment tranquillement comme un film d'action, mais dont il ne faut pas oublier que ça a été vrai en fait.
Ouais, et enfin j'aimerais parler un petit peu de l'imaginaire, c'est-à-dire, bon là, particulièrement avec ce que vous mentionnez de la nuit, on voit qu'il y a une image qui est très forte, qui est une image animalière, qui est l'image du loup. En tout cas du prédateur sur le troupeau, particulièrement du loup, parce qu'on sait que les loups attaquent favorablement plutôt la nuit. Et on voit que c'est une image qui est tout à fait intégrée par les protagonistes, enfin, c'est-à-dire il y a un moment où le sous-marin parle à la VHF à Tom Hanks, et il se met à hurler comme un loup, etc. Il se met à dire « on est les loups, on va venir vous manger », etc. Enfin, je sais pas ce que vous en avez fait de ce truc très étonnant, je trouve, de se penser comme un animal, de s'animaliser, pour en quelque sorte, je sais pas si c'est magnifier ou en tout cas rendre plus concret ou transposer son rôle dans la guerre, se donner une identité en quelque sorte qui soit une identité primale, animale en tant que guerrier, quoi.
Ça va être difficile pour moi de ne pas imaginer qu'on évoque deux secondes un autre film s'agissant des sous-marins qui utilisent cette métaphore ces derniers temps, mais en tout cas
vous y êtes allé tout seul, hein,
Mais non, je pense que effectivement, c'est fait de façon relativement subtile, je trouve, dans ce film-là, sans insister dessus. Mais c'est vrai que la musique vient beaucoup insister, puisqu'en fait, on entend quasiment les mêmes notes de musique tout le long du film, hein, sur ce bruit et du sonar et de ce qui pourrait être une sorte du bruit du sous-marin, mais qui est un peu fantasmé, très voilà, mis en musique. Avec ce côté loup, et je crois qu'il y a un phénomène historique, c'est-à-dire qu'effectivement, le côté meute de loup, ça, c'est quelque chose qui est très vrai de cette époque, des U-boats, et qui n'a pas, à ma connaissance, été reproduit beaucoup, en tout cas dans le monde occidental, depuis. Est-ce qu'on l'utilise toujours, cette métaphore ? Moi, je sais pas, je pense qu'en tout cas, les armées et les animaux et les patchs et les logos et les insignes, etc., c'est très présent. Pour autant, aujourd'hui, les sous-marins se sont, j'allais dire, émancipés, vivent tout seuls. Ils peuvent tout faire tout seuls, quasiment. Et en soi, le sous-marin est déjà, pour un bateau de surface, suffisamment l'objet de la concentration, de l'attention des équipes, notamment spécialisées, en permanence, que je n'ai pas souvenir qu'on ait utilisé beaucoup de noms d'animaux, enfin, voilà, de bêtes pour les représenter.
Non, mais je reste mais... une seconde sur ce que vous disiez, sur les, effectivement, les patchs, les animaux, les... Enfin, c'est bête, hein, mais il y a un paquet d'opérations qui ont des noms d'animaux, qui ont des noms d'éléments naturels d'une manière générale. Il n'y a qu'à penser à Serval encore il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas, comment est-ce que vous le comprenez, ça, vous, cette appétence pour les animaux, alors spécialement les prédateurs d'ailleurs, que dans les armées.
Alors la marine n'est pas en reste, puisqu'elle a toujours ce qu'on a coutume d'appeler la ménagerie, qui sont les bâtiments écoles avec jaguar, guépard, lion, tigre, etc., qui sont les bateaux sur lesquels on fait nos classes, au passage, quand on apprend à naviguer. Mais effectivement, il y a le fait d'être à l'affût, d'être chasseur, d'être prédateur. Au fond, on en revient à un message qui est clé dans le film, c'est on est chasseur ou chassé, souvent les deux en même temps. On est sur un même territoire et probablement l'un des deux sortira pas vivant. Alors, je crois que la citation est plus une blague qu'une citation, mais il me semble qu'elle est attribuée à De Gaulle, qui disait que la guerre c'est comme la chasse, mais les lapins tirent aussi. Effectivement, il y a cette métaphore assez facile qui revient souvent, de prédateur, de prédation. C'est toujours vrai, même si je pense que j'évoquais tout à l'heure la notion de haute intensité, elle a peut-être un peu diminué en tout cas dans le grand public. Quand on pense à la marine aujourd'hui, on pense plus à une sorte de police international de l'eau voilà, de sauvetage, etc. C'est aussi parfois ce qu'on a voulu mettre en avant dans des moments où la communication était moins martiale. Mais néanmoins, effectivement, si on a des moyens aujourd'hui de lutte anti-sous-marine développés, c'est vrai aussi pour la lutte anti-aérienne, c'est vrai pour globalement tous les domaines de lutte, c'est pour combattre. Donc effectivement, on revient sur une notion de combat qui est très, très poussée et qui est mortelle et qui ne peut être que mortelle, en fait, quand il s'agit de sous-marins.
Très bien, merci beaucoup François Narol.
Merci Alexandre.
Alors je rappelle donc ce film, donc intitulé Greyhound en anglais, traduit USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique, qui était disponible sur Apple TV+. Bon, il se trouve assez facilement, on peut se le procurer sans trop de problèmes. Donc film d'Aaron Schneider avec et écrit par Tom Hanks, qui a vraiment fait un rôle à sa mesure, disons, et dans lequel il est, je trouve, très bon, et qui a, encore une fois, le mérite de mettre un coup de projecteur sur une période et une partie, en tout cas, de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne parle pas si souvent, c'est-à-dire les flottes, et les flottes hors des... On parle parfois de la bataille du Pacifique, etc., c'est-à-dire des combats de porte-avions, de plein de choses, mais la guerre sous-marine de l'Atlantique, spécialement vue du côté des bâtiments de surface, c'est quand même pas souvent montré à l'écran, et en cela, ça vaut tout à fait le coup d'œil pour ceux qui en seraient curieux. Merci beaucoup.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.